Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les manipulateurs sont parmi nous, édition illustrée, est une adaptation condensée du guide d'Isabelle Nazaré-Aga consacré aux dynamiques de manipulation relationnelle. Dans un registre de psychologie pratique, l'ouvrage décrit des comportements qui peuvent installer une emprise dans la sphère familiale, amoureuse, amicale ou professionnelle. L'auteur s'intéresse moins à une étiquette clinique définitive qu'aux procédés observables et à leurs effets sur les personnes qui les subissent. Elle montre comment des apparences de gentillesse, de séduction, de générosité ou de réserve peuvent coexister avec la culpabilisation, le flou communicationnel, la dévalorisation et la mise en concurrence. L'édition illustrée, conçue avec Sophie Lambda, remodèle et simplifie le texte initial en y ajoutant des dessins humoristiques. Son objectif est de rendre les mécanismes plus immédiatement reconnaissables, puis de proposer des réponses concrètes fondées sur le repérage, la contre-manipulation et l'affirmation de soi. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les masques sociaux qui rendent la manipulation difficile à reconnaître. Le livre insiste sur une difficulté centrale, une personne manipulatrice ne se présente pas nécessairement comme autoritaire ou ouvertement hostile. Elle peut au contraire paraître aimable, séduisante, serviable, cultivée ou timide. Cette diversité des masques explique pourquoi l'entourage peut longtemps interpréter les malaises ressentis comme de simples conflits, des maladresses ou ses propres insuffisances. L'analyse déplace donc l'attention de l'image sociale d'une personne vers la répétition de ses effets relationnels. Le lecteur est invité à observer s'il ressort régulièrement d'un échange épuisé, confus, coupable ou contraint de se justifier. Cette approche évite de réduire la vigilance à des signes caricaturaux. Elle souligne aussi que les qualités valorisées socialement, telles que la disponibilité, la gentillesse ou le désir d'éviter le conflit, peuvent devenir des points d'appui pour une emprise. Dans cette version illustrée, la simplification du propos et l'humour visuel servent à rendre ces contradictions plus lisibles. Les illustrations ne remplacent pas l'analyse, mais facilitent l'identification de situations dont le caractère répétitif peut être difficile à nommer lorsqu'on y est directement impliqué. Deuxièmement, culpabilisation. Flou et dévalorisation comme technique d'emprise. L'ouvrage présente la manipulation comme un ensemble de conduites relationnelles plutôt que comme une simple influence ponctuelle. Parmi les procédés mis en avant figurent la culpabilisation, les demandes imprécises, les sous-entendus, la flatterie intéressée et la dévalorisation. Leur efficacité tient à leur combinaison. Le flou rend une discussion difficile à vérifier et pousse l'autre à interpréter ou à se défendre. La culpabilisation transforme ensuite un refus légitime en faute morale. La dévalorisation fragilise la confiance dans son propre jugement, tandis que la flatterie peut maintenir l'espoir d'une reconnaissance future. Le livre évoque également la capacité de certains manipulateurs à semer la zizanie ou à adopter une posture de victime lorsqu'elle sert leurs intérêts. Ces procédés ont en commun de déplacer la responsabilité et de désorganiser les repères de l'entourage. L'intérêt de cette grille est pratique, elle aide à examiner les interactions concrètes plutôt qu'à chercher une intention impossible à prouver. Une relation devient préoccupante lorsque ces mécanismes se répètent, que les limites sont continuellement contournées et que les besoins de l'autre sont systématiquement relégués. Le livre relie ainsi les tactiques de communication à leurs conséquences psychologiques et parfois somatiques. Troisièmement, les critères de repérage et leurs limites d'usage. Isabelle Nazaré-Aga est notamment connue pour proposer une liste de caractéristiques permettant de repérer un fonctionnement manipulateur. Dans l'économie du livre, cet outil sert à donner une structure à des impressions souvent dispersées, incohérences, absence d'attention aux besoins d'autrui, changement d'attitude selon les contextes, dénigrement ou recours à la culpabilité. La valeur de cette démarche réside dans l'observation d'un faisceau de comportements durables et non dans la recherche d'un défaut isolé. Une personne peut être maladroite, égocentrique ou traverser une période difficile sans que cela établisse à lui seul une emprise organisée. Le livre encourage donc à considérer la récurrence des conduites, l'asymétrie de la relation et l'impact sur la liberté de décision. Cette prudence est importante pour ne pas transformer une grille de vigilance en diagnostic clinique. Les catégories utilisées dans la littérature grand public ne remplacent ni une évaluation professionnelle ni l'examen du contexte, notamment lorsqu'il existe violence, dépendance matérielle ou vulnérabilité psychique. L'apport principal de l'outil reste de légitimer l'attention portée aux signaux répétés et aux effets ressentis. Il aide le lecteur à passer d'un malaise diffus à une analyse plus précise de ce qui se joue dans les échanges. Quatrièmement, faire le deuil d'une communication idéale pour réduire la prise. Une idée structurante de la partie consacrée à la protection consiste à renoncer à l'attente d'un dialogue parfaitement rationnel, équitable ou réparateur avec une personne qui entretient systématiquement le flou et la domination. Le livre ne conseille pas de mieux expliquer indéfiniment ses intentions dans l'espoir d'être enfin compris. Cette stratégie peut alimenter la manipulation si chaque précision devient une nouvelle matière à contester, déformer ou retourner contre soi. L'auteur propose plutôt une communication plus sobre, centrée sur les faits, les décisions et les limites. Ne pas répondre aux demandes ambiguës, ne pas fournir un récit détaillé de sa vie privée et éviter de se laisser placer en intermédiaire font partie des précautions évoquées. La prise de notes peut également aider à conserver des repères lorsque les propos changent ou que les responsabilités sont réécrites. Ces mesures ne visent pas à gagner un débat psychologique, mais à diminuer les occasions de confusion. Elles rétablissent une distinction essentielle entre entendre une demande et accepter de la satisfaire. Le livre présente cette réorientation comme une protection de l'autonomie. La personne concernée ne contrôle pas le comportement d'autrui, mais peut modifier la manière dont elle répond aux pressions et dont elle organise ses échanges. En dernier lieu, contre-manipulation, disque rayé et affirmation de soi, la seconde partie du livre privilégie des réponses concrètes plutôt qu'une confrontation spectaculaire. La contre-manipulation, telle qu'elle est présentée, repose sur une certaine indifférence aux provocations, aux pièges émotionnels et aux justifications sans fin. Il s'agit de répondre avec retenue, sans livrer d'informations inutiles ni entrer dans une escalade où l'autre fixe les règles. La technique du disque rayé illustre cette logique répétée calmement une limite ou une décision sans multiplier les arguments, lorsque l'interlocuteur insiste ou dévie la discussion. Cette répétition n'est pas une formule magique, mais une manière de ne pas laisser la conversation devenir un procès permanent. Le livre associe cette pratique à l'affirmation de soi, notamment la capacité de refuser, de tolérer le désaccord et de ne pas confondre générosité avec disponibilité illimitée. Il recommande aussi de ne pas rester isolé et, selon les situations, de s'appuyer sur des personnes concernées ou des soutiens extérieurs. Ces outils demandent une appréciation du contexte. Lorsqu'il existe intimidation, harcèlement ou violence, la priorité n'est pas la qualité de la répartie mais la sécurité, la documentation des faits et le recours à une aide adaptée. L'ouvrage fournit ainsi un vocabulaire et des gestes de base pour restaurer des frontières relationnelles. En conclusion, cette édition illustrée s'adresse d'abord au lecteur qui éprouve un malaise durable dans une relation et cherche des repères pour distinguer un désaccord ordinaire d'un fonctionnement d'emprise. Elle peut aussi intéresser les proches, les collègues ou les professionnels qui souhaitent mieux comprendre les effets de la culpabilisation, du flou et de la dévalorisation sur la capacité à poser des limites. Son bénéfice principal est de transformer des expériences souvent confuses en éléments observables, répétition des tactiques, brouillage des responsabilités, atteinte à l'estime de soi et réduction progressive de l'autonomie. Les outils proposés, comme la réponse brève, le refus des demandes ambiguës ou le disque rayé, donnent une orientation concrète sans exiger du lecteur qu'il établisse un diagnostic sur autrui. Par rapport à des ouvrages plus théoriques sur les relations toxiques, le livre se distingue par son caractère directement opérationnel et par une structure nettement séparée entre compréhension des mécanismes et moyens de protection. La version illustrée renforce cette accessibilité en condensant le contenu et en utilisant l'humour pour représenter des situations relationnelles reconnaissables. Elle convient donc particulièrement comme porte d'entrée. Sa lecture gagne toutefois à rester nuancée, les critères décrivent des conduites et des dynamiques, non une expertise clinique définitive. Dans les situations de violence, de harcèlement ou de danger, ces repères peuvent compléter, mais ne remplacent pas l'appui de services compétents et de professionnels qualifiés. Si vous souhaitez soutenir Isabelle Nazaré-Aga, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.